Bien, donc on va démarrer donc dans le cœur du BTS support à l'action managériale. Donc on va vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce BTS. On va commencer par vous expliquer un petit peu comment on a créé le diplôme, c'est-à-dire quel a été le processus d'élaboration, les objectifs de la rénovation, détailler un certain nombre d'attendus, puis rentrer vraiment dans la structure du diplôme, l'organisation de la formation. On aimerait bien évidemment que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Cyril, vous passera le micro. Alors, ce référentiel, la réflexion sur la rénovation de ce référentiel, elle a démarré en novembre 2014 par une présentation donc en commission professionnelle consultative d'un état des lieux du BTS assistant de manager. Donc c'est un travail que j'avais mené et que j'ai présenté donc en novembre 2014. En novembre 2014, donc la 16e commission professionnelle consultative a donné mandat pour démarrer les travaux de rénovation, hein, c'est-à-dire de constituer un groupe de travail pour faire d'abord une première partie qui était de faire une étude d'opportunité. Donc j'ai réuni un groupe de travail dont évidemment certains membres sont ici et ils se présenteront tout à l'heure parce qu'ils vont tous intervenir à part les malades. Et puis donc en septembre 2016, nous avons présenté donc ce rapport d'opportunité pour lequel on a obtenu donc un vote positif pour lancer donc les travaux du référentiel des activités professionnelles, qui est la première partie du diplôme, qui permet donc de définir les besoins métiers. Ensuite, en septembre 2016, donc on a présenté ce document et on a eu un avis positif et on a pu donc démarrer la suite des travaux qui ont été donc le référentiel de certification. Bon, à l'occasion duquel on a dû revoir aussi le référentiel d'activité professionnelle. Pour conduire ces travaux, on a mené 130 auditions pour nourrir l'étude d'opportunité. Donc ces auditions, ça a été des personnes dans l'emploi, des managers et puis des responsables ressources humaines. On a aussi donc après le vote de l'étude d'opportunité, on a lancé une consultation des enseignants. Donc vous devez certainement être au courant. On a donc envoyé un questionnaire à 615 établissements. On a eu 265 retours, ce qui est 43%, ce qui est très très bon, qui est plutôt bon, on va dire. Donc qui a montré vraiment la mobilisation des équipes de BTS AM pour cette rénovation. Ça a donné lieu donc à un compte-rendu de cette consultation qui est en ligne sur le site du CRCOM. Et puis on a consulté des DRH, Franck y reviendra, et des membres de la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat.
Alors l'objectif de la rénovation, le premier objectif est assez central, c'était de prendre en compte l'évolution des pratiques professionnelles liées à l'exercice du métier visé. Alors pour cela, il était important de constater que le contexte des organisations a beaucoup évolué. Et ce sont des choses d'ailleurs qui ont été intégrées dans le programme de la rénovation. D'une part, il y a une promotion de l'intrapreneuriat à l'intérieur des organisations. Il y a un besoin qui s'exprime de plus en plus fort et relativement à l'innovation, la créativité. Et puis ce souci des organisations de s'adapter constamment et régulièrement à l'environnement dans lequel elles évoluent. À partir de là, les organisations sont également touchées par cette notion que l'on appelle l'entreprise étendue, hein, cette entreprise dont on perçoit mal les frontières, au regard notamment de la prise en compte des parties prenantes, et puis une promotion un petit peu d'un style de management qui serait plutôt le management par projet. Il en a d'ailleurs déjà été question. Et puis un décloisonnement assez sérieux des différents services qui composent les organisations. C'est vrai que les organisations purement et seulement fonctionnelles, eh bien, elles ont trouvé aujourd'hui leurs limites. Alors, ce contexte que vivent aujourd'hui les organisations, il est global, il est général, mais il n'est pas sans impact sur les métiers que nous visons par ce diplôme. En effet, ceci renforce la dimension, on va dire, collective et collaborative. Une dimension forte que l'on doit initier avec l'ensemble des managers, d'autant plus que ce collectif ou ce collaboratif s'exprime parfois dans un caractère un petit peu compliqué ou nouveau. C'est celui qui fait face à des managers dits nomades. En plus, on a un renforcement du rôle d'office manager, donc cet office manager, il a aujourd'hui une mission forte sur comment aujourd'hui coordonner des collectifs de travail qui ne se retrouvent peut-être pas dans un même périmètre ou dans un même service ou dans un même bureau. Donc, renforcement aussi de cette dimension auprès de la coordination des équipes de travail. Une mise en relation avec énormément de partenaires, c'est-à-dire que non seulement ces partenaires internes, mais également et de plus en plus externes. Ce qui va de pair avec cette notion d'entreprise étendue. Et puis, beaucoup plus d'autonomie dans les missions que l'on peut confier à cet office manager. Ça, c'est, j'allais dire, premier élément dans l'évolution des pratiques professionnelles, ces nouveaux modes d'organisation qui impactent le métier, mais également et fortement une dimension numérique et digitale. Cette dimension numérique et digitale, elle se traduit par quatre éléments en particulier. Le premier, c'est l'apparition de nouveaux outils numériques de gestion, avec les progiciels de gestion intégrés, mais également nouveaux outils numériques de communication. On parle beaucoup de réseaux sociaux d'entreprises, réseaux sociaux personnels, réseaux sociaux professionnels, qui ont des effets, des impacts sur l'ensemble des missions de notre office manager. Des applications également métiers qui sont assez spécifiques et spécifiques à l'organisation dans laquelle va se trouver l'office manager et à qui on va demander d'accompagner ces procédures plutôt standardisées et dans des processus de workflow. Il va falloir que cet office manager soit capable de suivre les règles, de les maîtriser, de les adapter et surtout d'accompagner le déploiement de ces applications métiers spécifiques. Le troisième trait important qui est issu également de l'enquête que l'on a réalisée auprès des professionnels et qui justifiait cette rénovation, c'est l'identité numérique des organisations. Cette notion de marque employeur, qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'un des domaines d'activité relatifs à la gestion des ressources humaines, cette notion de culture d'entreprise, très importante, et des réseaux sociaux. Dernier élément sur lequel on voulait peut-être un tout petit peu plus insister, c'est la gestion des données tant en interne qu'en externe. Cette gestion des données en interne et en externe, elle pose plusieurs éléments dans lesquels notre office manager peut être partie prenante. C'est la question de l'identification de ces données, les données utiles, les données, la collecte après de ces données, le traitement, l'analyse de ces données, et puis ces questions de traçabilité, de fiabilité de l'information, d'utilisation et de protection. Et là, nous considérons que notre office manager a un rôle possible et probable dans les années à venir, dans la mise en œuvre notamment d'un certain nombre de choses. Alors peut-être juste un point, il faut savoir qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel évoluent les entreprises va considérablement changer du fait de la réglementation européenne, et deux textes sont importants et risquent d'impacter fortement les missions de notre office manager. Le premier texte, c'est un règlement que l'on appelle le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, et qui entrera en vigueur dans toutes les entreprises le 25 mai 2018. Le deuxième texte qui est important et qui impacte aussi fortement cette gestion des données, c'est une directive, qui est directive européenne, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Donc ça n'est pas sans poser, des questions sur des éléments qui sont impactés et qui figurent dans notre rénovation de diplôme relative aux systèmes d'information, au système d'information ressources humaines, notamment en matière de recrutement ou de gestion des carrières, de big data, de gestion des données internes et externes. Il faut savoir que les entreprises, à partir de ces textes, vont avoir un an pour être en conformité par rapport à cette législation européenne. Et donc nous considérons que dans les activités d'un assistant de manager, d'un office manager, eh bien, c'est un rôle sur la mise en place des modalités de mise en œuvre de ces textes qui peut lui être facilement confié. Et donc ceci renforce hein, cette dimension digitalisation des activités.
Donc un autre objectif de la rénovation, c'est un besoin donc d'évolution de la certification pour prendre en compte donc la diversité des parcours d'accès à la qualification. Et c'est ce qu'on appelle la conception donc des diplômes en blocs de compétences. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur cette notion de bloc de compétences parce qu'elle elle modifie terriblement la façon dont on conçoit les diplômes. Alors, cette conception des diplômes en bloc de compétences, c'est une nécessité qui est liée à la loi de mars 2014 sur la formation professionnelle. Cette loi institue donc le compte personnel de formation, donc que tout salarié ou demandeur d'emploi va pouvoir mobiliser pour aller en formation. Et il faut donc, pour qu'il bénéficie de formation, que ces formations soient inscrites au registre national des certifications professionnelles. Alors, nos diplômes sont inscrits au registre national de certification professionnelle. Simplement, c'est le diplôme dans son ensemble. Or, en formation professionnelle, il est possible d'être intéressé par un élément du diplôme. Et donc, ces éléments du diplôme n'étaient pas inscrits de manière élémentaire dans le RNCP jusqu'à présent. D'où une approche en bloc de compétences où chacun des blocs va pouvoir être inscrit au RNCP en plus du diplôme. Ce qui va permettre, donc en formation continue, de se former sur un élément du diplôme dans une stratégie qui peut être extrêmement variée. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui, pour son parcours professionnel, a besoin de se former sur la gestion de projet. Donc, il va trouver un organisme de formation qui va former sur le bloc gestion de projet du BTS, support à l'action managériale. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est dans un parcours mixte d'accès au diplôme. Il a commencé en formation initiale, il a arrêté ou elle a arrêté, et puis fait de la VAE, puis il manque des modules pour obtenir le diplôme. Donc, on va préparer un bloc en formation continue. Voilà. Donc, cette idée de construction en bloc nous oblige à bien imaginer les différents publics qui peuvent être amenés à préparer ce diplôme. Alors, c'est vrai que nous sommes extrêmement sensibles à la préparation au diplôme en totalité. Hein, c'est ce qu'on fait en formation initiale, c'est notre mission. Mais on voit bien qu'il y a d'autres publics qui vont préparer le diplôme selon d'autres modalités. Alors, cette logique de bloc de compétences, on va la montrer. Il y a une question peut-être, oui.
Encore moi, désolée.
Avec plaisir. On est content d'avoir des questions. On est venu ici pour vous rencontrer, donc on veut des questions.
Tout à fait. Cette capacité donc de travailler que sur des blocs peut-elle ouvrir la possibilité d'accueillir des étudiants étrangers qui viendraient travailler chez nous, puisqu'on est sur un référentiel européen? Est-ce qu'on peut être amené à accueillir éventuellement des étudiants qui viendraient travailler sur certains blocs de compétences ou pas?
Alors, nous ne sommes plus sur un référentiel européen. Voilà. Donc ces modalités-là, elles sont certainement possibles dans le cas d'expérimentation, mais c'est pas quelque chose qu'on a réfléchi, pour être honnête.
Nous, on a eu des étudiants qui sont partis vers une partie à l'étranger.
Alors ça, dans le BTS Assistant Manager, c'était prévu, mais là, dans celui-là, ça ne l'est pas. Donc cette logique bloc de compétences, elle vaut donc à toutes les étapes du diplôme. Je vous ai parlé du référentiel d'activité professionnelle tout à l'heure, du référentiel de certification. Donc, quand on a un bloc au niveau du référentiel d'activité professionnelle, ça correspond à un bloc au niveau du référentiel de certification et ça correspond à une épreuve du diplôme. Donc on va revenir un petit peu plus tard pour vous montrer comment ça se décline, cette conception en bloc, comment elle se décline au niveau du BTS support à l'action managériale. Il y a d'autres raisons que vous connaissez peut-être mieux, qui sont liées à les retours que nous avons eus sur le fonctionnement de la préparation du BTS AM. Et donc ces fameux questionnaires que vous avez remplis ont été évidemment très précieux pour nous, hein, pour faire évoluer évidemment la conception du diplôme. Alors sur les questions de formation, même si les questions de formation évidemment n'ont pas été au cœur de la réflexion quand on a travaillé à la fois sur le référentiel d'activité professionnelle et le référentiel de certification, puisqu'on s'adresse à tout public, mais plus tard quand on a fait la partie organisation de la formation. Quand j'ai fait l'étude préalable dès novembre 2014, j'ai pu voir avec les chiffres quand même un décrochage de 20%, globalement, de 20% des élèves sur l'ensemble de la formation. C'est-à-dire qu'il y avait 20% des élèves entrés en première année qu'on ne retrouvait pas en fin de deuxième année à se présenter au diplôme. Donc cette question du décrochage, ça nous a amené à une réflexion. Notamment, on le reverra quand on en parlera, on a mis par exemple un stage, on propose un stage très tôt dans la formation pour que justement la personne apprenante prenne conscience de ce qu'est le métier et si elle est bien faite pour ce métier-là. Il y a aussi un nouveau vivier d'étudiantes et d'étudiants qui arrive. Depuis le BTS AM, on a eu la réforme STMG. Donc on a des élèves, notamment de la spécialité ressources humaines et communication, hein, qui cherchent à poursuivre leurs études. Et ce BTS, support à l'action managériale, est particulièrement adapté à leur poursuite d'études. On a aussi des bacheliers professionnels, gestion administration, hein, qui n'existaient pas quand on a créé le BTS assistant manager et qui peuvent poursuivre aussi dans ce BTS. Enfin, sur la certification, vous avez été extrêmement, je ne sais pas comment le dire, mais critique, je vais dire critique, sur un certain nombre d'épreuves, notamment sur l'épreuve 4, sur la place des langues. La difficulté en Île-de-France, alors la présidente du jury d'Île-de-France, Fabienne Kiroulas, qui fait partie du groupe de travail à la grippe et donc ne peut pas être là, sinon elle témoignerait sur les difficultés qu'il y a à organiser cette épreuve en Île-de-France. Mais je vois qu'il y a des collègues d'Île-de-France qui peuvent aussi témoigner, des présidentes de commission notamment. Et puis sur l'épreuve 6, le rôle du livret de compétences, le passage de la compétence à la note, et même le travail de suivi de compétences qui était partiel dans le BTS AM puisqu'on ne suivait que des compétences dites informatiques avec des systèmes, on va dire, de redondance. Voilà, donc ça, évidemment, c'est des choses que nous avons pris en compte. Pour vous dire qu'effectivement, l'enquête qu'on a faite auprès de vous a été une enquête que nous avons pris en compte. Enfin, vous allez en juger et vous nous le direz si on l'a vraiment pris en compte.
On va en venir à un élément qui a pu interroger un certain nombre d'entre vous, c'est le choix du nom du diplôme. Il s'avère en définitive que on a fait en fin de compte le travail suivant. Nous étions conscients qu'il y avait un paradoxe, c'est que le nom de ce diplôme était plutôt parlant pour les professionnels. Assistant manager, ça parle pour un professionnel. Par contre, à l'égard des étudiants, c'est peut-être assez peu attractif, voire pas du tout. Donc ça, c'était un petit peu le ressenti que l'on avait. Donc le premier travail, ça a été une remontée des propositions de terrain de différents noms. Donc nous avons consulté des associations professionnelles, hein, dont la fédération, la FFMAS. Voilà.
On avait aussi consulté les enseignants, hein, et on avait eu très peu de retours sur des propositions de noms dans les fameux questionnaires.
Voilà, des professionnels, des ressources humaines, des managers et des professeurs, et notre groupe de rénovation. 33 propositions de noms différents ont été identifiées. Ces 33 propositions ont été testées, hein, après avoir présenté le diplôme à des spécialistes de ressources humaines sur une échelle de 1 à 5 de pas du tout adapté à tout à fait adapté. Donc il a fallu qu'on présente les domaines d'activité, les visées professionnelles de ce diplôme. Et les résultats, quelques extraits de résultats de cette enquête, sont apparues les notions de support au management, de soutien au management, de support à l'activité managériale, vous le voyez avec un arrobase, de coordination et organisation administrative. Et celui qui a remporté la palme, c'est Office Manager. Hein. Alors, Office Manager nous a été refusé, hein, puisque nous n'avons pas la possibilité d'utiliser des termes anglo-saxons. Hein, de la même façon, deux autres possibilités, c'était support à l'action managériale et support aux missions managériales, nous ont également été refusées avec le arrobase. Hein, parce que, là encore, non conforme avec ce qui était attendu au niveau de la DGESCO. Alors, pourquoi support à l'action managériale a été choisi ? Acronyme SAM. Hein. Pour le mot support, c'est la référence aux fonctions support. Et ça, les professionnels, lorsqu'ils voient ce mot-là, c'est quelque chose qui leur parle. D'emblée, l'exercice du métier est déjà associé aux différentes fonctions support dans l'organisation. Donc plutôt un message vis-à-vis duquel nous n'aurons pas forcément de pédagogie à faire envers les professionnels, mais très certainement envers nos étudiants. Deuxième élément important, c'est le nom d'action que nous avons préféré à celui de mission, hein, inscrivant la référence au métier et la posture de l'étudiant qui est constamment dans une dynamique, on l'a vu, en interface, dans le collaboratif, dans le coopératif et au sein des équipes. Et managérial, ben, c'est pour la référence au management et à la dimension surtout clé du métier et qui est cette fois-ci à la fois parlante non seulement pour les professionnels mais également pour nos étudiants hein, qui identifient également les acteurs avec qui ces étudiants titulaires de ce diplôme travailleront. Bien évidemment, il y aura un effort de pédagogie à faire, hein, notamment envers nos étudiants, pour bien leur expliquer cela. Nous, ce que l'on propose, ou en tout cas ce qui n'est pas interdit, c'est de communiquer autour du mot « office manager », hein, qui est effectivement celui qui aurait retenu l'attention de tous.
Dans les enquêtes que nous avons menées, hein, il y a un certain socle d'attendus qui se sont dégagés. Le premier, c'est la question de la maîtrise de la langue française, hein, tant à l'oral qu'à l'écrit. C'est pour ça que cet après-midi, nous aurons une intervention d'une professeure de langue, d'une linguiste, hein, qui a développé donc une méthode pour adultes et qui viendra donc nous la présenter parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à progresser avec nos élèves sur cette question de la maîtrise de la langue. Ensuite, la question de la posture de service. C'est-à-dire le fait d'être capable de s'adapter à une situation professionnelle en prenant en compte à la fois les interlocuteurs, la structure et les processus administratifs sur lesquels se base l'activité. Ensuite, la prise d'initiative. Je me souviens d'un manager qui m'avait dit « Moi, mon assistante, elle est débrouillarde ». Il m'avait dit. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est capable de capter un signal et de toujours trouver une solution pour le résoudre, donc de prendre des initiatives. La rigueur d'organisation et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la possibilité de faire évoluer à l'intérieur de l'entreprise ses processus, son modèle d'affaires, etc. De nouveaux usages dans le domaine du numérique, j'y reviens pas, Franck en a parlé, et cet après-midi, donc Olivier Delarue nous montrera comment ça vit dans le diplôme. Ensuite, donc, le travail en mode projet, hein, on y reviendra aussi, puisque c'est l'un de nos blocs. Et puis, préparer sa mobilité géographique et fonctionnelle, qui nous a obligés à une réflexion. On a une friction dans ce diplôme qu'on avait déjà dans l'ancien, c'est la friction entre la polyvalence et la spécialisation. C'est-à-dire, il faut de la polyvalence dans ce métier, et il faut aussi de la spécialisation. On le voit que très vite, les gens qui obtiennent le diplôme se spécialisent dans un domaine, RH, communication, commercial, etc. Voilà, donc on a eu cette réflexion dans la construction du diplôme, d'avoir à la fois cette double approche qui n'est pas simple. Alors, la structure du diplôme. Donc, On a trois domaines d'activité. Donc optimisation des processus administratifs, gestion de projet et collaboration à la gestion des ressources humaines. Alors, quand on crée un diplôme, on fait ce qu'on appelle une modélisation du métier, c'est-à-dire on représente un métier. Donc forcément, on fait des choix. Donc il y a peut-être des éléments qui sont dans un bloc que vous auriez vu dans un autre bloc. Alors on essaiera de vous expliquer les choix. Par exemple, le choix sur la veille informationnelle qu'on a mis dans le bloc projet. Je crois que ce n'était pas notre choix initial et puis qu'après on est revenu dessus parce que ça nous a semblé plus adapté, notamment en termes de certification, puisqu'on avait cette réflexion qui était cette réflexion en mode bloc de compétences. Et on garde évidemment donc polyvalence, spécialisation et l'importance donc de l'interculturalité qui reste évidemment très emblématique de ce métier, hein, et auquel évidemment les professionnels sont très attachés. Dans ces trois blocs, on a des éléments transversaux qui sont intégrés, qui relèvent de la communication et de tout ce qui concerne le numérique, c'est-à-dire à la fois la gestion et la production d'informations, et donc toute la manipulation des outils numériques. On a donc trois domaines d'activité, donc on a trois blocs de compétences. Chaque bloc donc, correspond à un domaine d'activité. Ça, c'est vraiment la logique bloc de compétences qui nous impose ce modèle-là. Une activité est associée à une compétence. Donc, vous avez dû remarquer que le nombre de compétences a beaucoup fondu par rapport au BTS précédent. Et que chaque compétence est explicitée. Donc, on a un modèle que vous retrouvez dans le référentiel de certification. Donc, on retrouve les activités. Dans le référentiel de certification, on retrouve donc les activités du RAP, avec donc une compétence qui est associée donc à chaque activité. Ensuite, donc, on a pour chaque activité la liste des tâches. Qui sont associés à l'activité. Ça vient donc du référentiel d'activité professionnelle. Ensuite, donc, on va décrire le contexte dans lequel va se réaliser cette activité. Et puis, on a des données. Donc ça, c'est très important, les données. C'est ce qu'on va donner pour conduire l'activité. Ensuite, on a trois colonnes. La colonne essentielle, celle qu'il faut apprendre par cœur, c'est la colonne du milieu. Ce sont les critères de performance. C'est ce qui va vous guider dans votre enseignement pour borner les apprentissages. Donc, on a les critères de performance. Ça, c'est la partie la plus importante. Pour atteindre ces critères de performance, on a donc un contexte, des données, des savoirs associés et un périmètre de responsabilité. Qui permet de fixer les limites de l'activité. Mais c'est un périmètre de responsabilité en termes d'activité professionnelle. Ce n'est pas du tout pédagogique. Il faut bien comprendre que le référentiel de certification est un outil qui décrit comment va se passer la certification, pas comment va se décrire la formation. Est-ce qu'il y a des remarques peut-être sur ces modalités d'écriture? Est-ce que vous avez été surprise? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent pas claires sur ces modalités d'écriture sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne?
Oui, vous pourriez peut-être, je pense que dans votre réflexion, vous avez intégré la différenciation entre le BTS SAM et le BTS gestion PME. Est-ce que vous pourriez nous dire les grandes lignes de différence entre ces deux BTS, s'il vous plaît?
Alors, il y a une collègue qui a participé au groupe de travail gestion de la PME qui est là aussi, donc qui pourra peut-être me corriger si je dis des erreurs. Alors le BTS gestion de la PME, il est évidemment lui uniquement centré sur ce type d'organisation, alors que nous on touche tout type d'organisation. Ça ne veut pas dire qu'on touche pas les PME. Parce que si vous avez regardé le rapport d'opportunité que nous avons fait, nous voyons que dans l'emploi, les personnes dans l'emploi, il y en a quand même à peu près 50% qui sont dans des PME. Voilà. Alors, je ne sais pas si on l'appelle toujours assistant de PME, je ne sais pas comment on nomme le métier, est un métier beaucoup plus orienté sur la gestion, c'est-à-dire que c'est auprès d'un dirigeant. d'entreprise que travaille cette personne. Donc, elle a une activité de gestion qui est beaucoup plus importante, alors que nous, c'est des personnes qui vont travailler auprès de cadres et donc qui sont plus sur de la gestion d'informations et non pas sur de la gestion au sens, on va dire, comptable, etc. Je pense que c'est la grosse modification. Alors, je ne sais pas si Géraldine, tu veux rajouter quelque chose ? Géraldine qui connaît les deux diplômes, puisque dans son académie, elle gère le BTS, les deux BTS, et qu'elle a participé à celle-là. Viens, Géraldine. Va.
Oui, merci beaucoup. Non, juste un mot, effectivement, puisque la question est posée des grandes distinctions entre le BTS SAM et le BTS Gestion de la PME, dont le séminaire national, d'ailleurs, aura lieu ici même demain. Alors, juste un mot, effectivement. Comme l'a dit Christine, nous sommes bien évidemment dans des métiers de support, d'assistanat, disait-on autrefois, etc. Mais effectivement, dans le cadre du BTS gestion de la PME, nous sommes bien sur les trois domaines de la gestion. Et pas seulement le domaine administratif qui est au cœur du BTS SAM, mais aussi dans le cadre de donc la gestion commerciale, avec la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs, et la gestion comptable et financière également, que l'on retrouve dans le BTS, gestion de la PME. Je n'en dirai pas plus, la suite peut-être avec certains d'entre vous demain. Merci.
Juste une petite remarque sur l'aspect commercial. C'est vrai qu'il y avait certains professionnels qui voulaient une dimension commerciale beaucoup plus importante dans le BTS support à l'action managériale. Bon, on a un peu mis le holà parce qu'on a dit on a 2 ans de formation. Après, la personne peut se spécialiser, par exemple, dans le domaine commercial. Alors, on a une petite assise commerciale. Je pense que les collègues qui vont présenter le premier bloc vont peut-être en expliquer un petit peu. Mais c'est vrai que, par contre, sur le domaine comptable et financier, la personne intervient vraiment très, très peu, sauf pour gérer les ressources mêmes de l'entité. Voilà ce que ça donne. Sur un document synthétique. On a donc nos 3 domaines d'activité, avec donc les activités qui correspondent donc à chacun des 3 domaines, avec donc des éléments transversaux qu'on va retrouver dans les 3 domaines, qui concernent donc la communication et l'utilisation du système d'information et des outils numériques. Donc ça, c'est la partie référentielle d'activité. On passe donc au référentiel de certification où on va trouver donc les 3 blocs de compétences. Et ensuite, donc, on va trouver 3 épreuves. Alors, je dis 2 mots sur les 3 épreuves, mais les collègues qui vont vous présenter les différents blocs vont y revenir. Donc, la première épreuve, on a choisi que ce soit une épreuve orale, c'est-à-dire que tous les candidats et les candidates, quel que soit leur statut, passent la même épreuve. On reviendra sur le déroulement de l'épreuve. Ensuite, la deuxième épreuve, quand on est habilité à passer en CCF, il y aura 2 situations. Donc, une situation qui concernera donc une présentation de veille informationnelle, parce que ça, c'est une compétence du 21e siècle qui est essentielle et donc sur lequel il faut absolument mettre l'accent en formation. On aura cet après-midi donc une présentation à ce sujet, et puis donc une épreuve de conduite de projet. Alors pourquoi plutôt cette épreuve-là 5 en CCF ? C'est parce que la conduite de projet nécessite finalement d'être équipé, et donc c'est beaucoup plus facile de conduire cette épreuve évidemment en CCF quand c'est possible. Et puis donc c'est l'épreuve 6 qui devient donc une épreuve écrite. De 4 heures.